Et donc, en principe, c'est notre dernière séance de cours sur le management stratégique de l'innovation. Et on va commencer par un. Alors, on a vu les derniers épisodes avec Renault, avec Sony. Il nous reste donc les derniers épisodes avec Apple, Intel et Netflix. Et ben donc, on va se lancer dans le dernier épisode à propos d'Apple. Alors, épisode assez intéressant, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Apple a été pas si loin de la faillite dans la deuxième moitié des années 1990. Ils étaient dans une situation assez critique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les mettre dans cette situation critique? Il y a eu une sorte d'effet de ciseaux quelque part où leurs ventes d'ordinateurs ont eu tendance à plafonner, voire à décroître un peu, enfin à plafonner, on va dire. Et puis en parallèle, ils ont augmenté leurs investissements. Donc, alors, concrètement, globalement, le marché est en croissance, mais les ventes d'Apple plafonnent. Donc, évidemment, ça veut dire que leur part de marché diminue. Or, ils ne partent pas de très haut. Hein. Donc, ça fait déjà depuis finalement le lancement de l'IBM PC, ils sont très largement dominés par le PC, à part, vous vous souvenez, sur un certain nombre de segments bien spécifiques. L'un des problèmes qui se pose pour eux à ce moment-là, c'est que finalement, après la sortie de Windows en version 3, puis de Windows 95, ils n'ont plus d'avantages tellement en termes de système d'exploitation. Voilà, un PC devient aussi simple à utiliser qu'un Mac. En parallèle, les avantages qu'ils avaient en termes graphiques sont effacés aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les PC vont aussi devenir des appareils multimédia avec des cartes graphiques. Etc. Donc, cet avantage-là aussi s'efface. Hein, souvenez-vous, on a dit mercredi que en 94, par exemple, Photoshop, qui était jusque-là un logiciel 100% Mac, sort aussi en PC. Et donc ça illustre assez bien ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire que comme il se vend 10 fois plus de PC, puis 15 fois plus de PC que de Mac, pour les éditeurs de logiciels, c'est quand même dur de se dire, moi je reste juste sur le Mac. De plus en plus, ils sortent leurs logiciels. Ceux qui étaient très dans le clan Mac, en quelque sorte, vont se mettre à sortir leurs logiciels aussi sur PC. Si bien que ça va enlever l'avantage du Mac dans les secteurs où il était là dominant. Et à l'inverse, pour tout ce qui est logiciels sur lesquels il n'avait pas d'avantage particulier, eh bien, les éditeurs de logiciels vont parfois carrément arrêter de sortir les versions Mac de leur logiciel, arrêter de les mettre à jour. Plus d'avantages sur les segments où ils avaient un avantage et un désavantage qui s'accentue sur tous les autres segments. Et en même temps, ils vont essayer de se reconstituer un petit peu un avantage concurrentiel en jouant sur la technologie, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont co-développer avec Motorola, qui est leur fournisseur historique, et IBM, un nouveau type de microprocesseur. Alors, quand je dis nouveau type, c'est nouveau pour eux, mais qui est aussi nouveau dans le monde des micro-ordinateurs, on va dire, à large diffusion. Hein. Alors, je ne vais pas vous embêter avec. les aspects techniques à nouveau. Il y en a pas mal dès qu'on parle d'Apple et surtout d'Intel. Mais voilà, en gros, ils fonctionnent de manière un petit peu différente de ceux qui sont dominants, qu'on appelle des microprocesseurs CISC pour Complex Instruction Set Computing, je crois. Et donc là, c'est Reduced Instruction Set Computing. Ils ont moins d'instructions, ils ont un jeu d'instructions beaucoup plus réduit, et du coup, ça va être une façon de fonctionner où il faudra parfois plus d'instructions pour arriver au même résultat, si on va découper en instructions simples, mais en même temps, ce type de microprocesseur est capable d'en traiter beaucoup plus à la seconde. Donc du coup, ils sont globalement plus efficients que ceux, par exemple, de la série x86 d'Intel. Donc c'est censé leur donner, à un moment donné, un avantage sur les PC, en ce sens que les Mac étaient présentés comme plus rapides à niveau de gamme équivalent. En parallèle, ils vont tenter des choses. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'ils avaient lancé un appareil photo, certes fabriqué par Kodak, mais enfin sous leur marque, l'Apple QuickTech. Ils vont aussi ouvrir en quelque sorte le marché de ce qu'on appelait des PDA, hein, pour Personal Digital Assistance. Là-dessus pourrait y avoir discussion. Il ne s'agit pas tellement ici d'avoir la discussion en tant que telle ou de la trancher, mais plutôt de dire que parfois qualifier une entreprise de pionnière, dans un certain nombre de cas, c'est très clair. On va dire Sony est pionnier dans le domaine du Walkman. Ça, c'est pas discutable. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a vraiment pas d'alternative, mais il y a des cas aussi où c'est un petit peu plus compliqué parce que vous avez une première série d'appareils qu'on pourrait qualifier de, alors là en l'occurrence de PDA, et dans ces cas-là, on va considérer que c'est l'entreprise qui les a lancés qui est pionnière, ou alors on va considérer qu'un vrai PDA, ça a un certain nombre de caractéristiques et que le premier à les avoir, c'est le Newton d'Apple. Et vous voyez que selon les cas, vous considérez que Apple est un pionnier ou pas dans ce domaine. En tout cas, contrairement probablement à la réputation qu'ils ont, en tout cas auprès des amateurs d'Apple. Alors des fois, je les repère comme ça dans les travaux. Ils prennent Apple comme exemple et alors ils disent qu'il est pionnier d'à peu près tout. Je caricature, hein, mais c'est assez amusant parce qu'on dirait que quelque part, ils intègrent le discours d'Apple qui se présente comme une entreprise ultra innovante et que du coup, ils ne vérifient même pas l'information. Donc, par exemple, Apple n'est absolument pas le pionnier des smartphones, hein, pas du tout. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Apple, pionnier des smartphones avec l'iPhone, des smartphones avec l'iPhone, c'est pas du tout le premier smartphone. Donc bref, là on peut quand même considérer que le premier vrai PDA c'est Newton, c'est plutôt une exception pour eux d'être pionnier. Alors juste pour presque le fun ou l'anecdote. Donc l'entreprise qui pourrait être considérée comme ayant en réalité introduit les premiers PDA, ce serait Psion, qui avait sorti ce type d'appareil dans les années 80. On dirait plutôt une calculatrice, sauf qu'il y a des lettres. Mais voilà, alors ceci étant, ça a déjà un certain nombre de caractéristiques du PDA, c'est-à-dire que là-dessus, vous pouvez avoir votre carnet d'adresses, vous pouvez avoir votre... vous pouvez tenir votre agenda, etc. Et puis, la version moderne sortie par Apple, c'est celle-là. Voilà à quoi ressemble un Apple Newton. Plutôt sympa hein, pour l'époque, mais c'est un échec. Alors là aussi, c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi ces cas-là. Ils sont souvent très très riches à plein d'endroits différents. Parce qu'en même temps, on pourrait relativiser, hein. Finalement, ils considèrent comme un échec la vente de 140 000 exemplaires en 2 ans pour un tout nouvel appareil, sachant que l'Apple One, souvenez-vous, ils en avaient vendu une centaine. Mais à l'époque, c'était une petite entreprise dans un garage, donc voilà. Là, ils vendaient plusieurs millions de Macintosh par an. Le Macintosh valant par ailleurs plus cher qu'un Newton, vous voyez bien que du coup, le Newton, il représente epsilon dans leur chiffre d'affaires. Donc, quand on est en plus en. Quand ils le sortent, ils ne sont pas encore en difficulté financière réellement, mais enfin, ça stagne un peu quand même les résultats financiers, ce n'est pas extraordinaire. C'est assez facile hop, de dire ça, on arrête. Et donc, ils vont arrêter. Au bout de 2 ans, l'Apple Newton, peut-être à tort, on y reviendra. Et du coup, ça nous amène à un élément théorique qu'on n'a pas traité en tant que tel jusque-là, même si on a quelque part donné pas mal d'éléments, hein, c'est pour ça que je vais aller relativement vite, hein, parce qu'il y a pas mal des points que l'on va voir qui ont été abordés sous d'autres formes à certains moments du cours. Mais là, donc, ça permet d'avoir une petite synthèse sur une problématique qui est ultra classique, évidemment, management d'innovation, qui est tout simplement, faut-il être un vrai innovateur? Faut-il être le premier à introduire un nouveau type de produit sur un marché? Ou est-il préférable d'être un suiveur et de profiter de l'expérience des pionniers? Et sachant que la réponse globale, elle est très nuancée, et que donc, plutôt que de chercher une réponse qui serait universelle, ce qui a longtemps été le cas, hein, on a longtemps vraiment cherché à mesurer l'avantage du pionnier, on va plutôt se concentrer sur quels sont ses avantages, quels sont ses désavantages, et ça permet, si vous êtes dans cette situation-là, avec ce type de décision-là à prendre, comment dire, de peser le pour et le contre, c'est-à-dire de regarder dans chaque cas cet avantage-là, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Parce que, alors j'aurais pu rajouter dans les titres, hein, c'est des avantages et des désavantages potentiels. Hein, ils ne sont pas automatiques, ils ne sont pas systématiques. Donc, du coup, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que j'ai cet avantage-là? Est-ce que j'ai celui-ci? Est-ce que j'ai celui-là? Etc. Et même chose pour les désavantages. Bon, par ailleurs, il est quand même assez rare qu'une entreprise qui est en mesure de sortir un nouveau produit dise, je vais attendre, on est prêt là, mais je vais attendre, parce que je veux être suiveur. Là où ça peut jouer, c'est plutôt dans des entreprises qui sont déjà multi-produits, et qui, à un moment donné, vont se dire, mes priorités en termes de projet de développement, je les mets où? Ah, je n'ai pas forcément envie d'être pionnier. Je sais que des concurrents sont susceptibles de sortir les produits, leur version du produit dans un an et demi. Moi, je vais plutôt viser dans 2 ans, parce que justement, j'ai regardé tout ça. Et je me dis, finalement, sur ce marché-là, ce n'est pas forcément intéressant d'être pionnier. Et du coup, je vais plutôt mettre mes priorités de R&D ailleurs. Évidemment, quand vous êtes une start-up et que vous avez été créé pour créer un produit, ça ne se pose pas sous cet angle-là. C'est-à-dire que de toute façon, si vous pouvez être pionnier, vous le serez. Encore une fois, vous n'allez pas ralentir volontairement votre projet pour vous faire doubler, hein. Mais par contre, là où un tableau comme celui-ci, enfin une fois qu'il sera rempli, évidemment, là pour l'instant, il n'est pas super utile. Un tableau comme celui-ci peut servir pour identifier, une fois on dit, on va être pionnier, on peut chercher à identifier les avantages sur lesquels on peut essayer de jouer. Alors, donc du coup, quels sont ces avantages? Dans un certain nombre de cas, assez restrictifs quand même, Le pionnier va quelque part établir une forme de norme dans l'esprit des clients ou des consommateurs, c'est-à-dire que les consommateurs vont assimiler ce qu'est cette nouvelle forme de produit à ce à quoi ressemblait le produit du pionnier. Or, évidemment, si le pionnier l'a conçu comme ça, c'est qu'a priori, ça correspondait à sa propre conception, à ses propres compétences, etc. Donc, s'il y a des concurrents qui arrivent avec des formes de produits radicalement différentes, mais que les consommateurs ne font pas le lien entre les deux, et du coup, continuent, quand ils cherchent ce produit-là, à aller vers le produit du pionnier, évidemment, c'est un avantage. Mais ça implique d'avoir du succès rapidement et d'être connu et reconnu comme étant le produit de référence très tôt. Hein, donc, c'est loin d'être toujours le cas. Alors, il y a un avantage potentiel en matière de coût. Hein, on avait vu ensemble ce qu'était la courbe d'expérience, hein, une courbe qui met en relation la production cumulée depuis le début d'un produit et ses coûts unitaires de fabrication. Et donc, le pionnier, lui, il a déjà fabriqué une certaine quantité quand ses concurrents arrivent sur le marché. Et donc, si ma courbe, j'ai retrouvé le petit crayon. Ah, j'étais content du premier trait. Donc, vous vous souvenez, courbe de cette forme-là. Oh, enfin, elle ne fait pas ça. Hein. Elle continue à descendre. Pour l'anecdote, c'est parce que j'ai heurté ma tasse. Donc ça a créé une remontée des coûts unitaires de fabrication, comme quoi des fois, hein, on ne se rend pas compte des vraies causes. Par exemple, vous, pionnier, vous en êtes déjà là. Donc vous, votre coût, c'est celui-là. Et alors que vos concurrents, ils arrivent tout en haut parce qu'eux, ils sont à zéro, forcément, par définition. Donc, ça vous donne un avantage en matière de coût. Alors, il est à relativiser comme tous les avantages, hein, je vous ai prévenu. Alors d'abord, il peut être plus ou moins fort. Hein. Jamais je fais une courbe comme ça, vous voyez que déjà, l'avantage, il est nettement moindre. Parfois, vous avez des suiveurs qui arrivent avec beaucoup de moyens, avec une stratégie très agressive sur le marché et qui, du coup, dépassent rapidement le pionnier en vente cumulée. Et donc, dans ces cas-là, certes, au tout début, vous avez forcément cet avantage, mais assez vite, vous êtes doublé. Si jamais, c'est une courbe qui, en général, elle est plutôt effectivement observée, elle est plus ou moins forte, mais c'est une théorie qui est à la fois pas mal discutée pour son côté, parce qu'évidemment, dans la réalité, c'est un peu moins régulier. Et quelque part, la réalité, elle ressemble plus à ce que j'ai fait sans faire exprès, parce qu'à certains moments, vous avez une hausse des prix des matières premières, parce que tac, 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 qui fait qu'il y a plein d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte. Hein. Mais bon, globalement, on la considère comme, en général, fonctionnant plutôt bien. Par contre, elle n'est valable que pour, on va dire, un type de méthode de production donnée. C'est-à-dire qu'à la fois, elle prend très bien en compte des améliorations, ça fait partie de la courbe quand on améliore les procédés de fabrication. Mais par contre, si vous arrivez avec une technologie de production qui est complètement différente dès le début, peut-être que vous, en tant que concurrent, vous allez démarrer là. Parce que dès le départ, votre toute nouvelle méthode de production, elle est beaucoup plus efficace que celle qu'utilisait le pionnier. Donc vous voyez, tout ça réuni, ça fait que si normalement, quand la courbe fonctionne, au tout début, l'avantage, il est acquis, en pratique, vous voyez bien que c'est autre chose, qu'il soit maintenu dans le temps, qu'il perdure, voire même qui, dans quelques cas, il peut être mis en cause par l'utilisation d'une technologie de production totalement différente. Il veut la souris. Autre avantage potentiel, dans certains cas, vous allez pouvoir préempter des ressources rares. Alors, déjà, il faut qu'il y ait que vous utilisiez des ressources rares pour ça. Et ensuite, il faut que vous soyez effectivement en mesure de les préempter. Donc, vous voyez que là, le côté conditionnel, il saute plutôt aux yeux, hein. Donc, des ressources rares, ça peut être des choses très, très différentes. Alors, ça peut être par exemple une matière première que vous utilisez, vous trouvez un matériau jusque-là peu utilisé, vous lui trouvez des caractéristiques extrêmement intéressantes pour qu'il soit utilisé dans des batteries, par exemple. Et là, bah, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est alors la version, je dirais, extrême, c'est vous arrivez à signer des contrats d'exclusivité avec les quelques mines dans le monde qui arrivent à extraire ce métal. Et alors là, bah, le temps qu'on ouvre de nouvelles mines, etc., bah, vous allez avoir pas mal d'années où vous allez être tout seul à pouvoir l'utiliser. Bon, ça, c'est quand même relativement rare. Ce qui peut par contre être un peu plus fréquent, c'est signer des contrats à long terme à un certain prix avec les mines en question, qui fait que vous allez vous approvisionner à prix fixe et assez bas pendant longtemps, assez bas parce que comme pour l'instant, il servait à rien ce métal. Donc évidemment, pour eux, c'était un déchet. Donc bah, ils sont déjà contents de vous le vendre, même à 20 dollars la tonne. Et puis bah, évidemment, quand on découvre les propriétés extraordinaires, enfin qu'elles sont rendues publiques, et que vous sortez vos premiers produits, qui ont des performances extraordinaires, bah, les concurrents vont eux aussi vouloir acheter le même produit. Mais sauf que comme entre-temps, bah, il y a déjà une demande. Là, cette fois, les mines, elles ne vont pas le vendre à 20 dollars la tonne. Et donc, du coup, bah, le prix va augmenter, mais pas pour eux, mais pas pour vous. En tout cas, le temps de votre contrat à long terme. C'est jamais infini, évidemment. Donc ça, c'est une version soft, on va dire, de la préemption de ressources rares. C'est un peu entre l'avantage en matière de coût, mais qui n'est pas lié à la courbe d'expérience ici, et la préemption de ressources rares. Après, des ressources rares, ça peut être des emplacements intéressants. Dans une ville, par exemple, si vous créez une chaîne de nouveaux restaurants innovants, bah, voilà, préempter les meilleurs lieux très vite, ça peut être un moyen de gêner vos concurrents. Ça peut être le fait de mettre la main sur le nom le plus intéressant. Vous voyez, vous créez un système qui permet d'obtenir des billets pas chers à condition de les prendre à la dernière minute parce que ça remplit des avions. Vous vous appelez lastminute.com, ce sera difficile de trouver un terme qui reflète mieux le service en question. Les autres trouveront sûrement aussi des termes percutants, courts, etc., comme on peut essayer de les trouver, mais ce sera probablement pas aussi bien que lastminute.com. Il peut y avoir des avantages en termes d'image et de notoriété. Alors, image, parce que bah, c'est valorisant d'être un innovateur. D'ailleurs, je pense que vous voyez bien que les entreprises qui innovent communiquent beaucoup sur leurs innovations. Donc, ça veut, et du coup, bah, si vous avez été pionnier, vous allez le mettre fortement en avant. Et puis, d'autre part, de notoriété. Hein, je rappelle que la notoriété, c'est simplement le fait d'être connu. Alors que l'image, c'est ce que vous véhiculez. Donc, on peut très bien avoir une image déplorable et un très fort taux de notoriété. Donc là, en termes de notoriété, c'est lié notamment au fait que bah, quelque chose qui est très innovant peut attirer l'attention des médias, oui, des médias de façon générale. Et donc, vous pouvez avoir une forme de publicité gratuite lié au fait qu'on fait des reportages, par exemple, sur votre tout nouveau produit, etc. Donc voilà, alors vous voyez que là encore, c'est bien évidemment un avantage qui n'a rien d'automatique, parce que Si jamais finalement vos ventes ne décollent pas et que vous disparaissez assez vite du marché, ben, on vous oubliera. Et donc vous ne bénéficierez pas de la notoriété ni vraiment de l'image, même si, si vous survivez et que vous parvenez ensuite à communiquer sur le fait que vous aviez été l'innovateur, mais même là, ce sera difficile parce que ça reviendrait à communiquer sur un échec. Hein, donc du coup, vous voyez que hein, je vous avais donné, quand justement on avait fait le premier épisode d'Apple, enfin juste avant, quand on a en transition le nom des premiers fabricants d'ordinateurs, bah, vous voyez bien que tout le monde les a oubliés. Donc l'avantage pour eux est inexistant. Enfin, bah, on peut utiliser les droits de la propriété intellectuelle pour gêner les concurrents. Alors ça peut être les gêner bah, à travers des marques, des dessins et modèles, etc. On y reviendra. Mais évidemment, l'arme la plus forte du pionnier, potentiellement, c'est le brevet. Ah, mais il se trouve qu'en début de cours, on avait à la fois indiqué ce qu'était un brevet, mais on en avait aussi donné les limites. Donc vous voyez bien que ça n'a rien d'un avantage automatique et toujours très fort. Alors, bah le pionnier a aussi des désavantages. Alors, on parle aussi parfois d'avantages des suiveurs, ce qui revient au même, hein. La première chose, c'est qu'il va débarquer sur un marché inconnu, sur lequel les segments ne sont pas encore bien déterminés, etc. Donc, il y a quand même une probabilité non négligeable pour que bah, il fasse un mauvais ciblage. Pour que son produit soit décalé par rapport aux attentes du segment qu'il vise, etc. Donc, généralement, quand vous êtes vraiment innovant, bah, vous allez tâtonner, hein, et ensuite bah, améliorer votre produit en fonction des retours clients, etc. Mais du coup, bah, ces tâtonnements, bah, vos concurrents vont les voir. En tout cas, ils vont voir quelles sont les caractéristiques de vos produits, ils verront. Ils n'auront peut-être pas toutes les infos sur ce qui a déclenché vos décisions. Hein, ils n'ont pas toutes les infos que vous avez pu recueillir en étant expérimentateur. Ça pourrait être presque un avantage aussi de recueillir certaines données avant. Mais par contre, ils voient très bien ce que vous en faites en termes de produits ou de services. Et donc, bah, du coup, ils ne vont pas faire les mêmes tâtonnements que vous. Ils vont tout de suite éviter certaines des erreurs que vous avez faites. Ensuite, il a été montré qu'en moyenne, quand on était suiveur sur un marché, les dépenses de R&D, la plupart du temps, étaient moins élevées. Donc là, vous voyez, j'ai écrit frais de R&D plus élevés pour le pionnier que pour les suiveurs. Bah, c'est tout simplement lié au fait que quand vous êtes suiveur, souvent il y a une partie de ce qu'a fait le pionnier que vous allez tout simplement imiter. Tout ne peut pas être protégé en général dans un produit. Bah, du coup, il y a des choses qui pourront être tout simplement reprises. Et puis il y en a d'autres sur lesquelles vous pouvez éventuellement buter sur des droits de propriété intellectuelle qui vous obligent à les contourner, etc. Ce qui peut d'ailleurs faire que, dans certains cas, les frais de recherche et développement peuvent se retrouver plus élevés pour les suiveurs que pour le pionnier, parce que, mais c'est des cas rares, mais ce sera le cas si vraiment c'est très compliqué de contourner des technologies brevetées par le pionnier. Et là, des fois, bah, on va dépenser plus d'argent à essayer de contourner qu'on l'avait fait à inventer. Mais encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire là, c'est l'exception et pas la règle. Ensuite, bah, il doit éduquer entre guillemets le consommateur. Hein, parfois, on dit évangéliser le consommateur ou les clients. Hein, alors, je ne vais pas vous le mettre parce que là, dans la configuration où je suis. Bref. Avec l'écran dupliqué pour éviter que vous voyez le mode présentateur, blablabla. Bref, en gros, on risque de mettre 30 secondes ou 1 minute pour mettre la pub et l'enlever, alors que la pub dure même pas 30 secondes. Mais vous aurez sur le e-campus la publicité pour l'iPad, qui, vous le verrez, est assez significatif de ce point de vue-là, puisqu'en fait, toute la première publicité, ou presque, consiste à montrer à l'image qu'est-ce qu'on peut faire avec un iPad. Puisque, bah, voilà, ce type de tablette n'existait pas. Et donc, bah, ça peut être un peu déstabilisant au départ pour les consommateurs de se dire, OK, il nous propose un grand iPhone, mais qui ne peut pas téléphoner. Donc en soi, avouez que dit comme ça fait pas. Et en plus cher. Donc il fallait bien montrer ce que l'on pouvait faire avec ce nouveau type de produit. Et évidemment, bah, quand Samsung et les autres sont arrivés sur le marché avec leur propre tablette, bah, ils n'avaient plus à évangéliser le consommateur. Donc eux, ils ont pu communiquer sur les avantages spécifiques de leur produit, là où Apple avait communiqué sur ce que pouvait apporter une tablette en général. Enfin, bah, parfois, les ventes mettent du temps avant de décoller. Alors ça a deux conséquences principales, hein. D'une part, bah, on voit bien que tous les avantages se retrouvent réduits, voire anéantis. C'est-à-dire que, bah, évidemment, si vous vendez peu, bah, vous n'allez pas établir des normes dans l'esprit des clients et des consommateurs, hein, parce qu'ils sont peu à avoir utilisé et même parfois vu votre produit. Bah, vous n'avez pas beaucoup descendu la courbe d'expérience, puisque vous ne vendez pas beaucoup. Admettons qu'au départ, vous ayez préempté des ressources rares, bah, c'est rare de les préempter pendant des durées extraordinairement longues. Alors, vous avez peut-être eu un peu de notoriété au début parce que vous avez inventé, mais visiblement, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, puisque le produit n'a pas décollé. Et enfin, bah, si vous aviez des brevets, bah, du coup, leur durée de vie s'est fortement raccourcie entre-temps. Enfin, il vous reste plus beaucoup de temps avant qu'ils tombent dans le domaine public, voire ils sont déjà tombés dans le domaine public. Et puis, l'autre aspect, c'est que ça peut conduire à un abandon prématuré. Alors, quand je dis prématuré, personne ne peut deviner ce qui se serait passé si Apple avait sorti une nouvelle version améliorée du Newton plutôt que d'arrêter, hein. Donc, je ne peux pas affirmer de façon ferme et définitive qu'ils ont eu tort d'arrêter le Newton. Mais ça interroge quand même un peu parce que bah, d'un côté, 140 000 exemplaires pour un tout nouveau produit, tout nouveau concept, bah, est-ce que c'est vraiment si mal que ça, hein? Pensez aux ventes de l'espace au début. Voilà, la question peut se poser. Alors, elle se pose d'autant plus qu'assez rapidement, après qu'Apple ait arrêté le Newton, il y a une entreprise qui s'appelait Palm, qui a lancé un PDA qui s'appelait le Palm Pilot, et alors là, qui a provoqué un décollage du marché assez phénoménal, en fait, hein. À la fin des années 90, le début des années 2000, vraiment, tous les cadres qui veulent être un peu dans le coup, ils avaient leur PDA. C'était vraiment le. Et très souvent, c'était Palm Pilot, parce qu'en plus, il y avait une forme d'externalité de réseau direct assez intéressante. C'est que ben, ça gérait donc l'agenda, le carnet d'adresses, on pouvait envoyer des messages avec, etc. Et l'un des avantages, c'est que ben, il y avait un système Bluetooth qui faisait que bah, si vous colliez de Palm et que vous donniez l'autorisation, il transmettait les coordonnées, vos coordonnées à l'autre personne. Donc, du coup, le grand truc, alors notamment des start-uppers à l'époque, c'était hop, on allait dans les salons professionnels et puis évidemment, on voyait tout le monde coller son Palm au Palm des autres parce que hop, comme ça, on venait de transférer l'ensemble de ces coordonnées à l'autre personne. Mais si l'autre personne avait un autre type de PDA, ça ne marchait pas, bien sûr. Donc, bah, des lancements de produits qui ne marchent pas très bien, le produit principal, le Macintosh, qui qui vraiment se portent pas super bien non plus, et beaucoup d'investissements, puisque bah, concevoir un tout nouveau type de microprocesseur, je ne sais pas combien ça leur a coûté, mais ça leur a forcément un peu coûté, même si c'est partagé avec IBM et Motorola. Le résultat, c'est que bah, Apple va tomber dans le rouge, et jusqu'à des pertes quand même relativement importantes et inquiétantes hein, pour les analystes de l'époque. Voilà le schéma des résultats d'Apple. Donc vous voyez déjà hein, que quelque part, alors ils font un tout petit peu mieux en 92 qu'en 90, mais pas beaucoup. Donc on voit que ça stagne, en gros, hein, en dehors des petites variations conjoncturelles. Bon, 93, ça tombe. On aurait pu penser à ce moment-là que c'était justement conjoncturel, parce qu'il y avait une crise économique forte hein, fin 92, début 93, c'est-à-dire fin 92 aux États-Unis et plutôt 93 en Europe. Et puis on voit que les résultats se redressent après. Donc du coup, ça donne un peu l'impression, ce qui a pu aussi tromper hein, les dirigeants d'Apple sur la gravité de la crise, c'est que bah, leurs résultats remontent aussitôt après. Donc finalement, ça donne effectivement l'impression que c'était une crise conjoncturelle. Sauf que bah, si on regarde plus attentivement, vous voyez qu'en 95, on n'a toujours pas réatteint le record de 92, ni même les résultats de 90. Donc, pour une entreprise qui avant était quand même en très forte croissance, c'est pas fabuleux. Et puis, bah voilà, en 96, on tombe largement dans le rouge, hein, plusieurs centaines de millions de dollars de déficit, c'est-à-dire plus que ce qu'ils ont jamais réalisé en bénéfice. Et en 97, plus d'un milliard de pertes. Alors qu'encore une fois, ils n'ont jamais été très au-dessus à l'époque de 500 millions de dollars de bénéfices. Donc là, on se pose vraiment la question, de la viabilité, financière de l'entreprise. Résultat, il y a un petit vent de panique. Hein. Alors, ils se disent sûrement qu'il faut un peu plus de créativité, que là, ils sont partis dans un truc où ils jouent la performance, ils jouent beaucoup sur les entreprises plus que sur les particuliers à ce moment-là. Donc, ils jouent sur le fait que leur système d'exploitation est un petit peu moins coûteux à maintenir que Windows. Enfin, voilà. Donc, et ils se disent, bon, il faut, enfin, j'imagine qu'ils se disent, il faut quelqu'un qui soit capable de penser un peu autrement et voilà, de faire de l'innovation plus radicale. Et donc, il rappelle le cofondateur d'Apple qui avait été écarté en 84, hein, souvenez-vous, c'était parce que lui, il voulait diviser par deux le prix du Macintosh, arrêter l'Apple II, etc., alors que le Macintosh se vendait pas encore très bien et que l'Apple II bah, faisait vivre l'entreprise. Alors, ils le font venir d'abord comme consultant interne, en gros, et en rachetant sa propre entreprise, qui d'ailleurs était un échec hein, en termes commerciaux. Il avait créé un magnifique ordinateur qu'il avait appelé Next, en toute modestie, alors qu'il était vraiment beau et avec des jolies caractéristiques pour l'époque. Hein, bah, sauf que bah, voilà, il n'y avait pas de logiciel ou très peu pour la machine, à part ceux qui avaient développé eux-mêmes chez Next. Et du coup, bah, ça n'avait pas un grand intérêt d'avoir ce magnifique ordinateur pour lequel il n'y avait quasiment pas de logiciel. Donc il était arrivé beaucoup trop tard. Et donc, ils rachètent Next avec le peu d'argent qui leur reste. D'ailleurs, il leur reste tellement peu d'argent que ils vont même se tourner vers le grand ennemi, puisque bah, ils ont toujours considéré que Microsoft avait copié leur système d'exploitation, etc. Puis, bah, voilà, Microsoft, c'est le symbole du PC, donc le clan d'en face. Donc vous imaginez, hein, lors des grands rassemblements d'Apple, il faut imaginer tac-tac, et puis voilà, nous avons noué un partenariat avec un nouveau partenariat, et puis là, vous imaginez sur l'écran la tête de Bill Gates qui apparaît. Hein, Je sais pas, c'est un peu comme si il y avait un partenariat entre le PSG et l'OM. Donc d'ailleurs, je pense qu'il a commencé par se faire copieusement huer jusqu'à ce qu'il donne les termes du partenariat, puisqu'en fait, Microsoft va injecter de l'argent. À ce moment-là, Apple en arrive à avoir besoin d'argent frais, de liquidité, hein. Ils vont injecter, je crois que c'est 250 millions de dollars en échange d'actions, mais d'actions sans droit de vote. Parce qu'évidemment, Microsoft est très surveillé par les autorités antitrust et on imagine bien qu'ils ne peuvent pas prendre une participation significative dans l'entreprise qui mène le dernier petit clan qu'il y a en face d'eux, puisque leur système d'exploitation est archi dominant par ailleurs. Et puis surtout, ils vont s'engager à continuer à actualiser la suite Office pour Mac pendant au moins 5 ans. Et vous voyez à quoi on en arrive au-delà de l'argent, c'est que la grande crainte d'Apple, c'est que peu à peu, tous les éditeurs de logiciels, y compris celui qui est devenu le premier éditeur de logiciels à ce moment-là, Microsoft, se mettent à arrêter d'éditer leur logiciel. Et vous imaginez bien que si vous n'avez même plus Word, Excel, etc. sur Mac, alors là, les entreprises vont encore plus massivement déserter le Mac pour le PC. Et probablement que Microsoft, d'ailleurs, en faisant ça, maintient en vie Apple, parce que c'est son intérêt d'avoir comme ça un concurrent qui est suffisamment faible pour ne pas lui faire d'ombre, puisque il se vend à ce moment-là, je pense qu'on est plus sur un rapport de 20 à 1, vous voyez, à chaque fois. Donc c'est pas si jamais ils arrivaient à l'éliminer, ils grignoteraient 5% de plus de chiffre d'affaires. Donc ça ne changerait pas fondamentalement leur vie. Par contre, ils se retrouveraient en situation de monopole. Donc là, c'était une époque où les autorités antitrust américaines envisageaient, mais très sérieusement, de couper en deux Microsoft, hein, d'en faire deux entreprises, une entreprise chargée des systèmes d'exploitation et très fortement régulée, en gros, et puis une entreprise qui faisait des applications comme Word, Excel, etc., qui auraient été en libre concurrence, mais qui auraient été séparées de la partie système d'exploitation. Donc, on voit bien que c'est plutôt leur intérêt qu'il y ait quand même un adversaire. Comme il n'est pas puissant, ça tombe bien. Et puis, ça va sans doute participer à la légende de Steve Jobs, hein, puisque donc il revient en 97, fin 96, je ne sais plus, mais 97 vraiment. Et dès 98, hop! Les bénéfices reviennent, c'est pas miraculeux. Alors, en réalité, donc oui, ça c'est la suite de la courbe. Vous voyez que ça va mieux. Puisqu'ils vont même battre leur record de bénéfices en 99. Alors, il faut pas en attribuer tout le bénéfice quand même à Steve Jobs. Ce serait un peu injuste avec ceux qui l'ont précédé, puisqu'en fait, ils avaient lancé un grand plan de restructuration et de réduction des coûts, ce qui explique aussi quand même une partie du montant très élevé des pertes, puisque vous savez, hein, que quand on fait des restructurations dans ces cas-là, ça a un coût direct. En plus, on passe souvent des provisions parce que y a toujours des risques associés. Mais par ailleurs, on va licencier, donc on va verser des indemnités de licenciement, fermer une usine. Je ne sais plus s'ils en étaient arrivés là, mais ça va coûter de l'argent. Et c'est pour ça que très souvent, quand une entreprise en difficulté réduit ses coûts, dans un premier temps, vous avez une dégradation des comptes. On l'avait vu avec Intel quand ils avaient quitté le marché des mémoires. Dans un premier temps, ça s'était traduit par des pertes. Alors qu'ils avaient abandonné la partie la moins rentable pour la partie la plus rentable. Très clairement, un Steve Jobs qui devient PDG, qui redevient PDG de l'entreprise, assez vite, hein, il bénéficie des effets de ce qu'avaient lancé les dirigeants d'avant. Mais ceci dit, Je ne veux pas dire non plus par là qu'il n'a aucun mérite, puisque 98, c'est aussi le lancement d'une nouvelle génération du Macintosh. C'est le début des iTruc, des i2. Donc c'est l'iMac. Il a deux caractéristiques qui pourraient paraître un peu contradictoires. D'un côté, il marque une vraie rupture en matière de design. Et notamment, bah, il ne ressemble pas à un PC, alors que les Mac ressemblaient pas mal à des PC, hein, quand même. Et donc, vous en avez peut-être vu dans votre jeunesse ou dans des films. Voilà, c'était comme ça, des ordinateurs tout en un. Hein, enfin, il y avait un clavier et une souris en plus, mais là, c'est vraiment l'ordinateur, c'est pas juste le moniteur. Et voilà, avec une coque translucide, voilà, ça sort complètement des habitudes pour un micro-ordinateur. Et là, il y a probablement très fortement une touche Steve Jobs hein, dans ce côté on ose quelque chose qui est en rupture. Et puis, c'est aussi un mouvement stratégique retour vers les particuliers, parce que. Alors ça s'est aussi vendu auprès d'entreprises, hein, ce type d'iMac, mais bah, on voit bien que là où ça va vraiment faire la différence, ces couleurs flashy, etc., c'est quand même plutôt auprès des particuliers. D'ailleurs, à ce moment-là, le Mac revient dans des magasins comme la Fnac, etc., où ils avaient eu tendance à les déréférencer. Hein. Et puis alors oui. Le mouvement contraire, c'est que autant à l'extérieur, le Mac n'a jamais été aussi différent du PC. Enfin, si, le premier Mac était quand même très original aussi. Mais on reprend un peu l'esprit, d'ailleurs, vous voyez bien, le premier Mac, c'était aussi un tout en un. On revient un peu à l'esprit d'origine du Mac. Mais par contre, à l'intérieur, la connectique n'a jamais été si proche de celle du PC. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'électronique, Apple va prendre les mêmes normes que celles du PC à ce moment-là. C'est-à-dire que ils vont, ça va être un des tout premiers ordinateurs avec des ports USB, par exemple. Mais au moment où ils lancent un ordinateur avec des ports USB, tous les fabricants de PC ont déjà décidé que dans les années à venir, ils allaient massivement pousser les ports USB. Et voilà. De la même façon, toute la connectique intérieure, les connecteurs utilisés pour le disque dur, par exemple, là, ils ont utilisé les mêmes que sur un PC, si bien qu'on n'était plus obligé de faire des séries de disques durs pour le Mac qui se vendaient mal et à côté des séries de disques durs pour le PC qui se vendaient 20 fois plus. Et que donc on vendait beaucoup moins cher aux fabricants de PC, c'était physiquement exactement la même chose. Hein, il fallait juste programmer un pilote pour le Mac pour pouvoir profiter de ce marché-là. Donc vous voyez que du coup, ça permet de réduire les coûts parce qu'on n'a plus des composants qui sont spécifiques au Mac. Alors l'exception, c'est le microprocesseur. Qui était toujours un Power PC de chez IBM, Motorola et Apple. On va voir que tranquillement, enfin, oui, je peux même le dire dès maintenant, en fait, sans le dire à ses partenaires, Apple va programmer les prochaines versions de son système d'exploitation, dont on va reparler. De manière à ce qu'il puisse traiter des instructions, enfin qu'il puisse donner des instructions plus exactement à des microprocesseurs Intel. Et donc tout d'un coup, brutalement en 2006, il va annoncer à Motorola et à IBM que leur partenariat c'est fini et qu'ils n'achèteront et que maintenant ils vont se fournir chez Intel. Voilà. Bon, du point de vue éthique. Ça peut être discuté, mais bon, ça s'est révélé efficace. Et en tout cas, c'était la continuation logique du fait que ils cherchaient à bénéficier des mêmes économies d'échelle que les fabricants de PC. Donc, De plus en plus, c'est comme un PC à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est de plus en plus différent. Ceci dit, il y a quelque chose qui va toujours rester spécifique à Apple, c'est son système d'exploitation. Donc, du coup, Apple va plutôt concentrer ses efforts, parce que du coup, maintenant, vous voyez qu'ils utilisent les mêmes composants que les autres, donc ils vont faire moins de R&D, on va dire, matériel, sur du matériel, et ils vont plutôt concentrer leurs efforts sur le côté logiciel, et notamment sur l'écriture d'un nouveau système d'exploitation qui va être effectivement lancé en 2001 et qui s'appelle OS 10, mais avec un X. Alors, c'était plutôt bien vu, ça. Ce X, il est plein de clins d'œil, en fait. Bon, et la première chose, c'est que la version précédente de macOS, c'était le macOS 9. Bon, donc, il est assez logique de poursuivre avec un macOS 10. Donc, ça, c'est pour montrer la continuité et que les nouveaux Macs seraient toujours compatibles avec les anciens logiciels. Hein, le nouveau système d'exploitation, bien que on va le voir assez nettement différent en termes de code. Du précédent, tout a été réécrit en fait, est toujours compatible avec les anciens logiciels. Donc le fait de dire bah, après OS 9, c'est OS 10, ça montre la continuité. Mais en même temps, on utilise ici un chiffre romain, alors que ce n'était pas le cas du tout précédemment. Donc c'est pour montrer quand même aussi qu'il y a une forme de rupture. Donc c'est la rupture dans la continuité, mais voilà, le fait d'utiliser un chiffre romain, ça souligne le fait qu'on a quand même pris un petit tournant. Et puis, quand je vous parle de clin d'œil, il se trouve que ce nouveau système d'exploitation a été largement écrit sur une base qui est un système d'exploitation largement répandu et en grande partie open source qui s'appelle Unix. Donc vous voyez que forcément ça résonne avec le X d'OS 10. Et enfin, la société qu'avait créée Steve Jobs et qui a été rachetée par Apple s'appelait Next. Et le Next s'écrivait comme ça, avec un X majuscule au milieu. Donc voilà, c'est un peu pour l'anecdote, mais il y a pas mal de clins d'œil là-dedans. Et en fait, pourquoi ils ont payé... quand même relativement cher, hein, 400 millions de dollars de mémoire Next, alors que commercialement c'était un échec cuisant, hein, vraiment ça se vendait vraiment pas bien. C'est en partie parce qu'il y avait déjà eu un énorme travail, enfin il y avait déjà eu un gros travail de fait sur ce système d'exploitation et que justement voyant le problème des externalités de réseau, Steve Jobs l'avait travaillé, avait déjà dans la version pour Next, mais là il essayait d'approfondir encore la compatibilité avec le Mac. Il essayait de faire en sorte que Next, ça soit un concurrent direct d'Apple et qu'il soit compatible avec les logiciels pour Mac. Et donc, du coup, il se retrouve avec un système de, enfin, il voit l'avantage d'avoir un système d'exploitation plus stable, plus robuste, mais compatible avec leur logiciel. Et donc, c'est notamment ça qu'ils ont acheté. Bon, par ailleurs, il y avait des petites choses intéressantes. Je crois que c'était... intégré dans Next, je pense pas que ce soit Steve Jobs à titre personnel, enfin ce serait à vérifier quand même, mais par exemple il y avait une participation dans Pixar qui était aussi, il y a des petites choses comme ça. Mais ceci étant, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, macOS 10 est donne un avantage, redonne un petit avantage au Mac, en ce sens que là, pour le coup, leur système est beaucoup plus stable que Windows. Surtout que le Windows de l'époque. Hein. En plus, pour les particuliers, c'était l'époque de Windows Millennium. Je pense que ça a été la version la plus instable de toute l'histoire des logiciels Microsoft. Si vous passiez une journée sans avoir les fameux écrans bleus qui plantaient votre ordinateur, vous étiez content. Je caricature, mais à peine. Hein. Mais ceci dit, vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand monde qui allait acheter un Mac, qui était, même s'ils avaient réduit la différence de prix grâce à la stratégie d'homogénéisation, c'était quand même plus cher qu'un PC à gamme égale, hein, à caractéristiques techniques comparables. Juste parce que le système était plus stable. C'est quand même, voilà, c'est un avantage, mais c'est un avantage limité. Ce qu'a fait Apple en parallèle, sous l'égide de Steve Jobs, hein, c'est que ils vont offrir, avec le système d'exploitation, des petits logiciels de retouche audio et vidéo, enfin de lecture audio et vidéo, et aussi de retouche vidéo. Vous voyez des petits outils, alors qu'ils ne sont pas des outils pro, ce n'est pas Adobe Premiere, mais à la fois, c'est un petit plus quand même, hein, puisque c'est des logiciels dont l'équivalent sur PC est payant. D'autre part, c'est tout à fait, là encore, dans la lignée du Mac, qui a été longtemps la référence dès que c'était graphique ou audio. Et donc, parmi eux, il y avait un jukebox virtuel qui s'appelait iTunes. Donc, à l'époque, c'est juste un logiciel, hein, iTunes. Le problème, c'est qu'un jukebox virtuel, c'est sympa, mais à ce moment-là, commence à émerger une nouvelle tendance. Notamment du fait de la dématérialisation de la musique, c'est le baladeur numérique. Et donc Apple se dit que évidemment un logiciel comme ça aura beaucoup plus d'impact si jamais il y a un baladeur qui est associé. Donc ça permet, hein, de gérer facilement ces morceaux de musique, de les télécharger, etc., sur son ordinateur, puis de les transférer aisément sur son baladeur. Et donc, ils vont sortir eux-mêmes un baladeur. Alors, c'est très loin d'être le premier baladeur numérique. Ça n'est même pas le premier baladeur numérique à disque dur, mais c'est un des premiers à disque dur, mais ça n'est pas le premier. Donc, toujours pas pionnier, hein. Néanmoins, ils font partie de ce qu'on appelle les suiveurs précoces, hein, des premiers. Et c'est la première grande marque, on va dire, qui propose un baladeur numérique à disque dur, donc qui permet de contenir beaucoup plus de fichiers musicaux que ne pouvaient ceux qui utilisaient de la mémoire flash, sachant qu'à l'époque, hein, évidemment, c'était pas du tout les mêmes quantités on ne pouvait pas stocker les mêmes quantités de données sur de la mémoire flash qu'aujourd'hui, hein. Et puis le commercialise 400 $, ce qui est à la fois franchement cher pour un baladeur numérique, mais pas très cher à côté d'un Mac. Voilà l'iPod, hein, parce que vous l'aviez reconnu, c'est l'iPod. Et l'iPod est un succès. Il y a même un phénomène un peu de mode, hein, c'est vraiment le truc. Alors c'est aussi là qu'ils commencent vraiment à faire leur publicité un peu hype, vous voyez, visant notamment les publics jeunes, etc. C'est là qu'ils vont beaucoup rajeunir leur image, hein, Apple. Il y a même quelques personnes qui n'ont pas de Mac qui achètent des iPods. Mais ce n'est pas super intéressant, parce que là, vous n'avez pas la facilité que vous procure iTunes dans le téléchargement. Hein, à l'époque, c'était déjà pas les mêmes débits avec un ordinateur, mais alors Si vous téléchargez directement à partir d'un baladeur, je ne sais pas trop ce que ça donnait. Donc en tout cas, ils voient que le produit lui-même plaît. Et là, ils vont complètement renverser et ils ont un vrai mérite d'avoir perçu ça et d'avoir quelque part modifié enfin, presque un élément de leur logiciel mental, hein. C'est que jusque-là, l'iPod, au départ, il ne sort que pour le Mac, évidemment, et il est plutôt conçu comme un produit qui va permettre de relancer, enfin, qui va aider à relancer les ventes de Mac. C'est au même titre qu'il y a des scanners pour Mac, qu'il y a des imprimantes pour Mac, etc., et qu'Apple propose l'essentiel de ses périphériques. Eh bien, Apple en rajoute un en se disant bah, il n'y a pas l'équivalent sur PC, donc ça va augmenter les ventes de Macintosh. Donc, vous voyez, là, dans leur esprit, le cœur de l'entreprise, c'est toujours le Mac. Et en 2003, il va y avoir un basculement qui est extrêmement important. C'est que ils vont lancer un iPod compatible Windows. Donc ça, chez Apple, lancer un truc n'importe quoi compatible Windows, c'est peut-être même que chez certains cadres, ça leur a fait mal à l'estomac. C'est vraiment, encore une fois, l'ennemi. Seulement, voilà, je rappelle qu'il se vend à peu près 20 fois plus de PC que de Mac. Et donc, quelque part, il voit très bien que ce produit qui se vend déjà bien, alors qu'il n'est compatible qu'avec le Mac, si jamais il devient aussi compatible avec le PC, bah, on pourrait presque multiplier les ventes par 20, si je caricature un peu. Donc c'est ce qu'ils font. Et effectivement, les ventes d'iPod vont s'envoler encore plus. Et en volume, très largement dépasser les ventes de Macintosh. Et en parallèle, ils vont lancer l'iTunes Music Store, donc pour acheter les morceaux légalement que l'on peut mettre ensuite sur son logiciel iTunes et son baladeur iPod. Et du coup, bah, vous voyez que, mine de rien, ce changement en 2003 a vraiment transformé le logiciel de l'entreprise, puisque à partir de ce moment-là, le Macintosh n'est plus le produit d'Apple qui se vend le plus. Et donc, bah, s'il n'y avait pas eu le succès de l'iPod, Apple n'aurait jamais lancé l'iPhone, vous voyez? Et du coup, bah, d'ailleurs, je vous mettrai aussi la présentation de l'iPhone par Steve Jobs. Il commence par, enfin, il le présente comme un iPod avec des touch controls, je ne sais plus comment le traduire, voilà. Puis après, il dit un appareil révolutionnaire pour Internet, etc. Puis avec un effet de manche dont il a le secret, alors il présente ça comme trois produits différents dans un premier temps. Puis après, il dit mais il ne s'agit pas de trois produits différents, mais c'est un seul produit et nous l'avons appelé l'iPhone. Et donc, on voit bien que c'est un iPod auquel on a rajouté plein de fonctionnalités, l'iPhone. Donc, s'il n'y avait pas eu l'iPod, il n'y aurait pas eu l'iPhone. Et d'ailleurs, en 2007, Apple, qui s'appelait encore Apple Computer, est devenu Apple tout court. D'ailleurs, ils ont dû payer un peu d'argent pour ça, puisqu'il y avait une maison, c'était la maison qui gérait les droits des disques des Beatles, qui s'appelait Apple. Et là, comme ils sont dans le domaine de la musique, hein, vous voyez, tant que c'était des ordinateurs, il n'y avait pas de conflit de marque, mais là, tout d'un coup, il y a un conflit de marque. Donc voilà, je vous ai mis des petites photos de l'iPhone, hein, mais vous savez à quoi ça ressemblait. Quoique, Il a un peu évolué en termes de design, l'iPad. Je vous ai mis une photo des ordinateurs de l'époque, puisque quand même, Apple n'abandonne pas pour autant l'informatique. Hein, donc, ils sont. Et d'ailleurs, ils embarquent quand même aussi dans l'iPhone un certain nombre de leurs compétences informatiques. Hein, mais par ailleurs, le premier smartphone a été sorti par Nokia plusieurs années avant. Hein, et à l'époque, le smartphone qui a déjà du succès, c'est le BlackBerry. Donc vraiment, Apple n'est absolument pas pionnier sur les smartphones. Par contre, il est le premier à en proposer un avec une interface graphique, enfin avec un écran tactile plus exactement. Alors, un petit élément, une petite parenthèse théorique à ce propos. Jusque-là, en termes de droit de la propriété intellectuelle, on n'a parlé que du brevet. Or, il existe d'autres droits de la propriété intellectuelle. Alors, dans le cours d'ingénierie juridique sur la start-up, vous les passerez en revue de façon beaucoup plus détaillée sur le plan juridique. Et par ailleurs, dans Gérer un projet innovant 21e siècle, j'y reviendrai moi. Sous l'angle de l'utilisation de ces différents droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est un thème sur lequel vous aurez, enfin, que vous aurez l'occasion de réétudier. On peut dire que il est évidemment très important quand on parle d'entrepreneuriat innovant. Hein. Mais simplement, pour le cas d'Apple, on s'aperçoit que, quelque part, le roi du droit de la propriété intellectuelle dans les entreprises technologiques qui est le brevet, n'est peut-être pas le roi chez Apple, puisque finalement, il a toute une communauté d'utilisateurs fidèles hein, qui sont très, très attachés à la marque. D'ailleurs, il y a un cabinet qui s'appelle Interbrand qui fait une évaluation monétaire, financière de la valeur des marques. Alors, la méthodologie peut toujours être discutée, etc. Hein. Mais toujours est-il que la marque qui arrive première dans le monde, c'est Apple. Et d'après eux, elle vaudrait près de 500 milliards de dollars à elle seule, c'est-à-dire juste la marque, hein, pas tout le reste de l'entreprise. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres marques fortes. Hein. Bon, iPod, ça commence à être un peu. Ça sert plus. Mais iPhone, iPad, App Store, tout ça, c'est des marques. Ensuite, les dessins et modèles. Alors, là encore, vous reviendrez hein, sur les aspects juridiques, mais ce qu'il faut savoir quand même, d'ores et déjà, c'est que les dessins et modèles, ça protège l'esthétique de produits. Or, on sait que le design, c'est extrêmement important dans les avantages concurrentiels d'Apple. D'ailleurs, quand il y a eu la série de litiges, de procès avec Samsung, la première attaque d'Apple contre Samsung ne portait pas, parce que c'est eux qui ont ouvert les hostilités, mais la première attaque ne portait pas sur des brevets, mais sur des dessins et modèles. Ils considéraient que la Galaxy Tab ressemblait trop à l'iPad, d'ailleurs, ils ont eu gain de cause dans certains pays. Et alors, dans une moindre mesure, quand même, sur les brevets. Parce que, mais du coup, vous voyez, dans la hiérarchie, bien que ce soit une entreprise technologique, ils n'arrivent pas premiers. Mais évidemment, ils en déposent, hein. Ceci étant, ils sont très très loin de Samsung en termes de nombre de dépôts de brevets. Alors, il faut dire qu'ils ont, Samsung a aussi des activités plus diversifiées. C'est vrai que c'est pas directement comparable, puisque Samsung fait toutes sortes de composants électroniques hein, et toutes sortes de produits électroniques. Chez Apple, à la base, c'est une arme avant tout défensive dont ils vont essayer de se servir plutôt pour essayer de contrer les attaques en contrefaçon qui sont faites contre eux, puisqu'en fait, ils vont subir beaucoup de procès en contrefaçon. Et donc, avoir des brevets, c'est une façon d'avoir un instrument de négociation, hein. On l'avait un peu évoqué quand justement on avait parlé du brevet, hein. On avait dit, si vous avez des brevets, ça peut vous permettre de négocier des accords de licence croisés. On hésitera aussi davantage à vous attaquer parce qu'on sait que vous êtes capable de contre-attaquer, etc. Et d'ailleurs, je vous ai mis un petit schéma alors, qui date de 2012. Ça s'est un petit peu calmé depuis, mais que je trouve assez intéressant sur les attaques en contrefaçon contre Apple. Vous voyez, toutes les flèches qui vont vers Apple, c'est des attaques en contrefaçon. Alors, j'ai voulu à la fois vous montrer de loin pour que vous voyez l'ensemble, et puis ça se rapproche pour que vous puissiez lire un petit peu. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont attaquer Apple, même si les flèches vont aussi dans l'autre sens. Et par exemple, ils vont participer à un consortium, alors pour lequel ils ont donné un nom un peu fun, mais le consortium lui-même, le but du consortium n'est pas super fun. Donc ils l'ont appelé Rockstar, qui y a eu donc un des grands équipementiers télécom des décennies précédentes, Nortel, a fait faillite dans les années 2000. Et du coup, on a mis son portefeuille de brevets, c'était 6 000 brevets, aux enchères. Le premier à proposer une enchère, ça a été Google, là aussi pour des raisons largement défensives, hein. C'était le moment où ils allaient ou ils avaient lancé Android, donc il fallait le défendre contre d'éventuelles attaques d'autres entreprises. Et puis, du coup, il y a eu de renchérissement par Rockstar, puis par Google, puis par Rockstar, etc. Donc, Google avait démarré à 900 millions de dollars, et finalement, c'est Rockstar qui l'a emporté et qui a acheté le portefeuille 4,5 milliards de dollars, ce qui est considérable pour un portefeuille de brevets. Et puis, le droit d'auteur, puisque vous ne le savez peut-être pas. Enfin, vous le savez probablement, mais peut-être pas tout le monde. En tout cas, le droit d'auteur protège le code, la façon dont est écrit le code des logiciels. Donc évidemment, tous ces produits-là sont bourrés de logiciels, donc tous ces logiciels sont protégés par le droit d'auteur. Alors, quelques petits graphiques pour montrer les ventes d'Apple. Alors, j'aimerais bien trouver les années d'avant pour voir justement comment l'iPod a pu décoller en 2003, etc. Mais les premières données que j'ai, c'est date de 2006. Et on voit qu'en 2006, l'iPod, qui est le graphique là-haut, se vend déjà beaucoup plus en volume que le Macintosh. Et après, ce qu'on voit, c'est que l'iPhone, qui est la courbe verte, vous l'avez deviné, va permettre d'atteindre un public qui est infiniment plus nombreux que celui que touchait Apple avant. Que l'iPad va d'abord avoir le même type de courbe. Hein, vous voyez, c'est pratiquement parallèle au départ et on se dit que ça suit la même courbe 2 ans après. Mais non, il n'atteindra jamais les sommets de l'iPhone. On voit bien aussi au passage les effets de substitution, hein, puisque l'iPhone est un téléphone avec plein d'autres fonctions, mais aussi un iPod dedans. Du coup, évidemment, l'intérêt d'acheter des iPods diminue beaucoup. Et puis, phénomène aussi assez intéressant, c'est que comme Apple devient une marque à la mode, on voit que même si les quantités, les volumes sont nettement inférieurs, finalement, ça relance aussi les ventes d'ordinateurs. Hein, parce que du coup, ils vont passer de, je sais plus, ils doivent être à 3-4 millions peut-être en 2006. En tout cas, ça doit être inférieur à 5. Puis là, on voit qu'on est probablement autour de 20 millions en 2018. Donc malgré tout, ça a aussi relancé les ventes d'ordinateurs. Mais alors là, si parmi vous, il y a des étudiantes ou étudiants très attachés à Apple, là, sur la base de ce seul graphique, vous êtes inquiet, parce que vous vous dites, mais ça stagne sur les dernières années. Alors, je vous ai mis aussi l'évolution du chiffre d'affaires. Et puis, alors, pourquoi Pourquoi est-ce que ça s'arrête en 2018? Parce qu'en fait, depuis, Apple ne publie plus dans ses rapports annuels les volumes vendus. Donc, du coup, il y a les chiffres d'affaires, hein, mais il n'y a pas les volumes. Donc, je ne pouvais pas continuer mes courbes. Ce n'est pas parce que je vous rassure, ce n'est pas parce que je n'ai pas touché à mon cours depuis 2018. En termes de chiffre d'affaires global, vous voyez que c'est une entreprise qui, en 2004, réalise quelques milliards de chiffre d'affaires. Hein, donc, c'est une entreprise pas petite, hein, mais ce n'est pas un géant. En 2009 ou 2010, on dépasse les 50 milliards, puis dans la foulée, les 100 milliards, puis dans la foulée, les 150 milliards. Puis, alors ça va un tout petit peu se ralentir, puis on va passer les 200. Mais là, on se dit, ils n'arrivent pas à passer les 250. Eh bien, si. Alors, vous voyez que c'est la zone où ils vont un peu moins avoir de croissance. Mais voilà, je tenais à rassurer les grands amateurs d'Apple. C'est reparti par la suite. Mais simplement, encore une fois, j'ai pas. Et ils ne publient plus leur volume, donc du coup, on n'a plus que les chiffres d'affaires. Et puis, pour terminer avec les données financières, voyez l'évolution du chiffre d'affaires si on le met sur une longue période, hein, 8,2 milliards en 2004, et puis on arrive à presque 400 milliards en 2024. C'est une belle croissance quand même, hein. Et puis, les bénéfices, puisque du coup, comme les acheteurs d'Apple sont prêts à payer beaucoup plus cher leurs produits que chez les concurrents, du coup, évidemment, ça permet de faire des bénéfices très confortables. Donc, le bénéfice net représente quasiment le quart du chiffre d'affaires. Et pas mal, un taux de marge nette de 25%, il y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça. Et puis, autre phénomène intéressant également, c'est la répartition du chiffre d'affaires en fonction des grandes catégories. Donc, on voit que le produit historique qui était le Mac ne représente plus que, bien qu'il soit qu'il ait repris du poil de la bête par rapport aux années 90, hein, mais néanmoins, il ne représente plus que 8% du chiffre d'affaires. Et donc, on voit que c'est l'iPhone, hein, quand même qui représente le plus gros du chiffre d'affaires d'Apple. L'iPad a plutôt tendance à se marginaliser aussi un peu, mais bon, il continue à se vendre. Les autres, c'est, vous savez, l'Apple Watch, l'Apple TV, etc. Et puis, un autre poste qui grossit, parce que du coup, je le suis chaque année, hein, vous voyez, j'actualise pour les étudiants, donc du coup, je vois bien les évolutions. Et la partie qui augmente le plus maintenant, c'est plutôt les services. Hein, donc, c'est notamment les commissions qu'ils vont prendre sur tout ce qui est acheté en termes de musique et puis sur l'App Store, surtout. Toutes les applications payantes qui sont. De mémoire, ils ont 30% de l'ensemble de tout ce qui est acheté sur l'App Store. Donc voilà, soyez rassurés si vous adorez Apple. À court moyen terme, ils ne risquent pas de refaire faillite parce qu'en plus, ils ne distribuent pas tant que ça de dividendes, et donc ils cumulent d'énormes réserves. En plus, il les cumule en grande partie en Irlande parce que fiscalement c'est avantageux. Il les rapatrie pas aux États-Unis, donc c'est assez rigolo parce qu'ils ont un énorme trésor de guerre qui est en Irlande. Voilà. On va peut-être faire une petite pause, et puis après, on aura encore deux épisodes, mais plus courts, hein, si ça peut vous rassurer, sur Intel d'une part et sur Netflix d'autre part.